Bonjour, il fait beau.
Ça va?
C'est magnifique. Et c'est le dernier jour que nous voyons notre pigeonnier tel qu'il est, puisque demain, ça y est, les ouvriers viennent et construisent la piscine. Et en même temps, d'autres ouvriers viennent et construisent le chalet de Mélodie. C'est une bonne victoire. Et merci à Monsieur le maire qui nous a accordé tous les permis. Il est formidable. On a bien fait de voter pour lui. Bien, nous allons lire Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10. Colossiens 2, 9 à 10. Alors, je pense que les chrétiens qui viennent nous écouter sont confinés chez eux. Nous aussi, on est confinés chez nous. On est tous confinés chez nous. L'Église est confinée. Et la communauté est confinée. Il manque juste Mélodie et les enfants qui ne sont pas là parce que le chalet n'est pas fini puisqu'on commence les travaux demain. Mais ils vont bien et alors on va fêter tous les anniversaires qui ont eu lieu pendant le confinement. On va les fêter tout ça le 30 mai. Tous ensemble pour l'anniversaire de Mélodie, on va faire une cinquantaine de gâteaux. Voilà. Colossiens 2, 9, 10. Je trouve. Voilà. C'est en lui, donc en Jésus, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Seigneur, je te prie de bénir cette parole, que cette parole touche le cœur de mes frères et sœurs qui ont des difficultés, qui ont des problèmes de communion fraternelle avec les églises ou ceci, cela. Je te prie, Seigneur, vraiment d'aider chacun et chacune. Merci, Jésus. Amen. Alors, quand Paul écrit ça aux Colossiens, Jésus-Christ est déjà mort, ressuscité et monté au ciel. Et quand il dit, en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité, c'est une réalité spirituelle. En Jésus-Christ habite, il est Dieu pleinement. Mais corporellement, corporellement. Alors on va regarder un petit peu tout ça. Il y a des choses que les chrétiens n'ont pas très très bien compris. Il est vrai que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, mais en tant que corps de Christ. Pas personnellement. Pas personnellement. En Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et aujourd'hui, le corps de Christ, ben, c'est son Église. C'est lui qui construit son Église. Et c'est son corps, son Église, c'est son corps dont il est la tête, vous êtes d'accord, et dont nous sommes les membres. L'apôtre dira un peu plus loin, dans 1 Corinthiens 12, 21-27, qu'il n'y a pas un membre qui peut se passer d'un autre membre. On va le lire, tiens, ce sera plus simple. 1 Corinthiens 12, 21-27. Écoutez bien, c'est très 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 beau. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été immergés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Donc, nous avons été immergés dans le corps de Christ et c'est dans ce corps qu'habite la plénitude de la divinité. Ce n'est pas dans les membres, dans chaque membre individuellement. Alors il continue. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Alors si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, ou l'ouïe, s'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je pourrais dire amen et allez me coucher. Parce que c'est tellement bien expliqué. On ne peut pas dire oui, mais... Non, on ne peut pas. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Alors, il y a l'Église dans le monde et puis il y a l'Église locale et l'Église locale et le corps de Christ dans la localité. Mais le corps de Christ dans la localité ne peut pas se passer du corps de Christ qui se trouve dans le monde entier. Partout là où des gens se réclament de Jésus-Christ qui est pleinement divin et qui est notre sauveur et qui est mort et ressuscité et qui est monté au ciel et qui va revenir bientôt, tous ceux-là sont nos frères et sœurs, sont des chrétiens. On ne peut pas dire, ah oui, non, mais ils ont une doctrine bizarre au sujet de ceci, au sujet de cela, donc on les jette. Non, on ne peut pas jeter les membres du corps de Christ. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il y a des chrétiens dans toutes ces dénominations plus ou moins bizarres, qui sont ces dénominations chrétiennes, qui sont toutes plus ou moins bizarres. Nous, on est bizarres. Tout le monde a sa spécificité. L'Église locale ne peut pas se passer de l'Église de Jésus-Christ qui se trouve partout sur la terre et dans toutes les dénominations. Il y en a partout. Comme je vous ai dit, il y a des choses de base. À partir du moment où vous croyez ces choses de base, vous faites partie du corps de Christ. Évidemment, si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est divin, bon, là, c'est autre chose. Parce que c'est tellement clair, tellement... C'est la base, si vous voulez. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est votre sauveur, là, c'est autre chose. Je parle à des gens qui ont les bases du christianisme, hein, les bases bibliques du christianisme. Nous avons tous besoin les uns des autres. Et ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que dans un corps, les membres ne se ressemblent pas tous. C'est vrai que même ma main droite ne ressemble pas à ma main gauche. C'est pas pareil. Elles ne sont pas pareilles. Le pied ne ressemble pas à l'oreille. Ça, c'est encore plus frappant. Hein. Vous vous rendez compte si mes pieds ressemblaient à mes oreilles. Mais les deux, mes oreilles, mes pieds, tout ça, ça fait partie du même corps. Et voilà pourquoi nous devons... déjà dans l'Église locale, travailler dans l'œuvre de Dieu, dans la vigne du Seigneur, en apportant nos talents personnels, nos caractères différents plus ou moins bien foutus, notre éducation qui est différente. Moi, j'ai aussi une éducation différente que plusieurs d'entre vous, et nous avons tous des dons personnels. Et nous avons à accepter de travailler avec des frères et sœurs très différents et de travailler en bonne entente. Et c'est là où je veux en venir. Chez nous, ça va. Gloire à Dieu, ça va. Depuis 1968, je suis au service du Seigneur et pour ma part, je commence à comprendre un peu qui je suis. Non, c'est vrai, je sais qui je suis, je n'ai pas de problème avec ça. Je sais quels sont mes dons, je sais quelles sont mes limites, je sais quels sont mes talents. Je sais quel est mon caractère particulier, mes qualités, mes défauts, et quand de temps en temps je déborde un petit peu, eh bien mes frères et sœurs me rappellent avec gentillesse afin que je ne nuise pas au corps de Christ, mais que je reste dans, dans le droit chemin, selon les Écritures, dans l'amour et dans toutes ces choses. Et on fait tous pareil les uns avec les autres. Et durant toutes ces années, j'ai découvert une chose peu commune que je voudrais partager avec vous, et c'est ça mon message aujourd'hui. Quand Dieu vous gratifie d'un don, il vous gratifie aussi d'un fouet. Et ce fouet, il est strictement réservé à l'autoflagellation. En aucun cas, il ne doit servir à frapper les uns et les autres. Paul, il avait ce qu'il appelle un ange de Satan qui le souffletait. On va le lire. 2 Corinthiens 12. Oui, c'est ça. 2 Corinthiens 12. 7, 10. Non, c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? Ah oui, mais moi j'ai dit 2 Corinthiens, mais je suis cherché dans 1 Corinthiens. Alors évidemment, ça ne peut pas être ça. 2 Corinthiens 12, 7, 6. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, c'est Paul qui parle, à cause de ces révélations extraordinaires, parce que c'est vrai qu'il y a des révélations extraordinaires, alors pour pas que je tombe dans l'orgueil, j'ai reçu une écharde dans le corps, virgule, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Voilà à quoi sert le fouet que Dieu nous donne pour notre propre flagellation. Il ne doit pas servir à frapper les autres. Ce fouet nous parle d'un mystérieux rappel à l'humilité qui s'inscrit dans notre chair. Vous savez, ici, bon, on a du marbre par terre, on ne marche pas sur des planchers, mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de marcher pieds nus sur un plancher, et tout d'un coup, une écharde qui vous rentre dans le pied. C'est terrible, une grosse épine, un machin, ou alors petit, vous avez de la peine à enlever, puis c'est bien rentré, il faut y aller avec une pince. Voilà, rien d'y penser, c'est l'horreur, une écharde dans la chair. Comme une écharde, quelque chose qui s'incruste là, qui s'inscrit dans votre chair. Quelque chose qui nous rappelle que nous ne sommes pas les meilleurs du monde, qu'on a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas les meilleurs du monde, ni personnellement, ni en tant qu'église locale, ni en tant que dénomination, si vous êtes membre d'une dénomination. Certaines églises disent être la seule église au monde. Grand bien leur face. Personne ne peut dire nous sommes les meilleurs, c'est pas possible, il faut un peu d'humilité. Alors, rien ne sert de savoir quelle était l'écharde de Paul, ça sert à rien du tout de le savoir. Ça sert à rien de chercher comment l'ange de Satan, ça veut dire un envoyé de Satan, cette écharde, un envoyé de Satan, comment cet envoyé de Satan le souffletait dans cette version, c'est écrit comment, je ne m'en rappelle plus, mais il y a des vieilles versions, c'est écrit le souffletait, ça veut dire le giflait. Ce qui compte pour nous, c'est de savoir que nous avons besoin d'humilité et de correction quand on a tendance à oublier l'humilité. Le corps de Christ serait en bien meilleure santé si les membres se souffletaient personnellement eux-mêmes, chacun pour soi, avec le fouet que Dieu lui a donné, avec l'écharde que Dieu a permis que... plutôt que de fouetter les uns et les autres. Regardons un peu ce qui est dit dans 1 Corinthiens 11, verset 28. C'est au sujet de la Sainte Cène. Et ça, c'est quelque chose qui est très précieux pour nous, parce que dans la communauté, nous prenons chaque soir, pendant le repas, le pain et le vin, c'est-à-dire le corps et le sang de Christ. Il est dit qu'avant de le faire, que chacun, avant de prendre le corps et le sang de Christ, que chacun, donc, s'examine lui-même et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est-à-dire que tu peux prendre la Sainte Cène avec des gens, tu sais qu'ils ont fait des bêtises, ils ont péché, tout. Mais toi, tu peux prendre parce que ça ne te regarde pas ce que lui, il a fait, ce qu'elle, elle a fait. Tu peux aller lui parler, tu peux la reprendre en douceur, en amour, tu peux essayer de l'aider, mais tu ne peux pas le juger et dire « Ah non, moi, je ne prends pas la Sainte Cène avec ça. » Non, tu dois te juger toi-même et prendre le corps et le sang de Christ toi-même, après t'être examiné toi-même. Si chacun s'examinait soi-même, eh ben, l'Église n'aurait pas besoin de recevoir des coups de fouet comme elle en reçoit en ce moment. Le mot que Paul utilise pour écharde, c'est un mot qui n'est utilisé qu'une seule fois dans la Bible. C'est le mot... non, c'est pas le mot. C'est le mot scolops. Et Paul ne dit pas de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas de quoi il s'agit? Ben, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Peut-être qu'il avait honte. Peut-être que c'était un truc honteux qu'il avait, allez savoir. Ou peut-être parce que les églises, à l'époque, savaient tous, ils étaient tous au courant de ce qu'il avait, donc c'était inutile qu'il en parle. Mais tout est permis, on peut croire n'importe quoi. Mais c'était charde. Qu'il devait être un truc douloureux, n'était pas un obstacle dans sa mission. Paul avait quelque chose qui l'empêchait d'avoir la grosse tête. Mais ce n'était pas une écharde, ce n'était pas un obstacle. Et nous devons bien réfléchir à tout ça. Comment se fait-il que nous ayons tout pleinement en Jésus-Christ, en tant que corps de Christ, en tant que membre de son corps qui est l'Église, et que nous soyons si orgueilleux, c'est-à-dire si méprisants au sujet des membres qui ne nous ressemblent pas. Hein ? Je parle bien des membres du corps de Christ, je ne parle pas des gens qui sont religieux dans le sens idolâtre et toutes ces choses-là, je parle de vrais chrétiens. Toutes les religions brandissent leur credo et le compare aux autres credos et se servent du fouet que Dieu leur a donné pour fouetter les autres. On ne peut pas faire ça. On peut aller vers un chrétien catholique et lui dire « Écoute, mon frère, faut qu'on parle parce que c'est pas possible. Tes idoles et tous tes machins, on peut parler. On a connu des branhamistes, on a parlé avec eux, on a échangé avec eux, il y a des choses où on n'était pas d'accord. On a vu des mormons, on a parlé avec eux, on est toujours en bon terme avec eux, bien qu'on ne soit pas d'accord avec tout, mais on ne les a pas fouettés. Est-ce qu'ils nous ont fouettés? Non, ils ne nous ont pas fouettés, ils ont été très corrects, mais il y a des choses où on n'est pas d'accord, point barre, mais on s'explique. On est obligé de se fouetter. Pourquoi ne pas être humble avant qu'un ange de Satan nous gifle? Depuis 47 jours aujourd'hui, un ange de Satan gifle les églises dans le monde entier. C'est Dieu qui a donné à l'église beaucoup, mais aussi un fouet. Et en ce moment, Satan est en train de fouetter l'église. Ne serait-ce pas pour nous faire comprendre que nous avons à être humbles? Paul savait très bien qu'il n'était pas à la hauteur du message qu'il apportait. Mais il ne se désespérait pas pour autant. Il constatait bien qu'il y avait un décalage entre lui et la perfection de Jésus. Entre ce qu'il disait et ce qu'il était lui-même capable de faire, d'être. Puisqu'il dit, je suis souffleté par le diable. Paul se rend compte qu'il n'est que le serviteur de Jésus et qu'il a en lui-même des contradictions malgré ses excellentes révélations fait malgré ces choses extraordinaires qui se produisaient dans sa vie. Il sait, l'apôtre Paul savait très bien qu'il portait en lui-même un trésor inestimable, il le dit, mais qu'il est lui-même qu'un vase fragile. Alors, peu importe le vase, ce qui compte, c'est le contenu. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est comme ça que nous devons regarder les uns et les autres. Sinon, le diable va nous souffleter. Il vaut mieux se souffleter soi-même. Hein. C'est-à-dire, il vaut mieux se tenir dans l'humilité avant d'être humilié. N'attendez pas qu'un envoyé de Satan vienne pour vous gifler afin de vous ramener dans l'humilité. Servez-vous du fouet que Dieu vous a donné pour vous fouetter vous-même. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller se mettre torse nu dans une cellule et puis se fouetter en disant « c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute ». Ça, ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que ce qu'il vous faut, c'est vous tenir dans l'humilité. Vous avez une écharde. Vous l'aurez à vie. Dieu a dit « non, je ne te l'enlève pas, ma grâce te suffit ». Vous l'aurez à vie. Vous cherchez à l'ôter, bonne chance. Vous cherchez à l'extraire de votre chair si faible, bonne chance. Elle est fichée dans votre histoire. Vous devez être humble. Cette écharpe sert à permettre que vous soyez humble. Vous devez être humble et confesser que vous ne serez jamais à 100% cohérent avec vos convictions les plus profondes. Vous ne serez jamais à 100%. Parce que vous êtes une personne humaine, donc limitée. Ce n'est que dans l'Église, dans le corps de Christ, que se trouve la plénitude de la divinité, pas en vous. Dans l'Assemblée. Dans le corps de Christ avec tous ses membres, qui sont tous différents, qui ont tous une fonction différente. Et vous avez besoin des autres, des frères et des sœurs qui sont parfois un peu difficiles. Vous en avez besoin pour rester humble. Si vous n'y faites pas attention, cette faiblesse qui est la vôtre, elle va devenir un obstacle à la cohérence globale. Alors souvenez-vous de Paul et revenez à l'humilité. Ni Paul, ni Pierre, ni, je parle des grands que je connais, ni Osborne, ni Raphaël, ni moi, ni vous, ne pouvez être remplis de la plénitude de Christ. C'est faux. Vous ne pouvez pas l'être, vous ne pouvez l'être que dans la communion fraternelle. Vous ne pouvez l'être que dans l'Église que construit Jésus-Christ. Avec les autres, vous pouvez l'être. Avec ceux qui ont des talents, des dons, des capacités, des caractères différents. Et je dirais même plus, qui ont des croyances différentes des vôtres. Si vous croyez être totalement dans la vérité, vous, ben vous vous trompez vous-même, le diable n'est même plus obligé de vous trompez vous-même. Et Dieu va permettre à un envoyé du diable, à un ange de Satan de venir vous fouetter, vous gifler, vous remettre dans le droit chemin de l'humilité. Alors, quelle est ton écharde, ton fouet? Ne répondez pas trop vite, réfléchissez bien. En naissant, vous êtes né avec, vous avez choisi ce fouet, cette écharpe dans votre passé éternel. Donc, voilà. Elle vous est imposée par le simple fait d'exister, cette écharpe. Ça vous est imposé, c'est comme ça. Cette écharpe peut être très humiliante parfois. Très humiliante. Vous reconnaîtrez votre écharpe le jour où vous arriverez à dire humblement « Ah ben ça c'est moi, hein. » Et puis c'est pas prêt de changer. Ça vous est jamais arrivé? Mon frère, ma sœur, tu as la plénitude tout pleinement quand tu es assez humble pour vivre avec les autres sans les fouetter. Alors voyons. Une écharpe, ça peut être un deuil non résolu. Ça peut être une mauvaise habitude. Ça peut être un défaut récurrent. Ça peut être une infirmité limitante. Ça peut être une passion dévorante. Ça peut être un trait de caractère peu glorieux. Vous avez essayé 100 000 fois d'ôter cette écharpe. Laissez-moi vous donner un conseil. Faites de cette écharpe une alliée. Vous savez, même le corps de Christ est blessé au talon. Le diable a mordu le corps de Christ au talon. C'est écrit dans la Genèse. C'est-à-dire que le corps de Christ, il est boiteux encore à l'heure actuelle. Et toi, tu ne voudrais pas boiter. Toi, tu voudrais être parfait. Toi, tu ne voudrais pas avoir quelque chose d'humiliant. Bien sûr que tu dois lutter contre le péché. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais laisse-moi te donner ce conseil. Fais de cette écharpe une aide, une alliée, afin de te décentrer de toi-même. Et de faire confiance à Jésus. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et puis de faire confiance aux frères et sœurs. De faire confiance aux frères et sœurs. Oui, mais par les frères. De faire confiance aux frères et sœurs. Oui, mais Michel, on voit bien que t'as mal. De faire confiance aux frères et sœurs. On a tous quelque chose à apporter au corps de Christ. Et bientôt, vous allez pouvoir retourner dans l'église. Après le déconfinement, ou si ça fait longtemps que vous n'avez pas mis les pieds dans une église, ben après le déconfinement, le premier dimanche, allez dans une église, allez-y avec vos dons, avec vos talents, avec vos tares, avec vos capacités, et avec votre fouet, pour vous fouetter vous-même, au lieu de fouetter les autres. Amen. Merci Jésus de bénir cette parole. Merci Seigneur d'aider ton corps sur cette terre à prendre conscience de cela. Que mes frères et sœurs écoutent ce message, le partagent avec d'autres chrétiens, le partagent afin qu'il puisse se répandre hors des frontières de France. Merci Jésus, que ton nom soit béni et glorifié. Amen. 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 Au revoir.